et bienvenue à tous dans cette émission. Selon les derniers rapports du ministère de la Santé publique mis à jour à la date du 24 mai, les derniers chiffres en République démocratique du Congo font état des 900 cas suspects et des 204 décès suspects au nord et au sud Kivu ainsi qu'en Ituri, considérés comme l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola. Face à l'extension de cette maladie dans ces provinces, des mesures ont été prises. Dès le samedi 23 mai, le gouvernement a décidé de suspendre tous les vols à destination et en provenance de Bunia, principale ville touchée par la situation sanitaire. La mesure s'applique à l'ensemble des vols, qu'ils soient commerciaux, privés ou spéciaux, excepté les trafics humanitaires et sanitaires. Depuis vendredi 22 mai, le gouverneur militaire de l'Ituri a suspendu les activités sportives et interdit les veillées mortuaires afin de prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Le général Johnny Luboya a également interdit des rassemblements de plus de 50 personnes ainsi que les veillées mortuaires sur toute l'étendue des zones de santé de Bunia, Rwampara, Mungwalu et Nyankunde où sévit cette épidémie. Au Nord Kivu, le gouverneur de la province, le général Kakule Somo, a interdit à la population de circuler avec un corps sans vie afin de freiner la propagation de la maladie à virus Ebola dans cette province. Plusieurs écoles et structures sanitaires de la ville de Butembo renforcent les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola. Quelle évaluation faire de l'application des mesures prises contre l'épidémie à virus Ebola en RDC 10 jours après sa déclaration officielle? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission en ligne Dr Jean Kaseya. Il est directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Bonsoir Dr Jean Kaseya.
Bonsoir et merci de m'avoir aujourd'hui.
En ligne également Luc Malembe, il est acteur sociopolitique basé à Bunia, à Ituri. Bonsoir Luc Malembe.
Bonsoir Monsieur Guz, j'en profite pour saluer le docteur Kaseya ainsi que toute la population qui va nous écouter.
Et aussi en ligne, docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique, expert principal en santé, chef de projet à la Banque Centrale, et il a participé activement à la gestion des 9 épidémies de la maladie à virus Ebola et de la pandémie et de la COVID-19 en RDC dans l'équipe du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Bonsoir docteur Michel Mouvoudi.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir docteur Jean Kaseya, et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi. Guy Maté, c'est la Banque mondiale et non la Banque centrale. Juste un lapsus.
Merci beaucoup, merci. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Nous l'avons dit, selon les derniers rapports du ministère de la Santé publique mis à jour à la date du 24 mai, les derniers chiffres en République démocratique du Congo font état des 900 cas suspects et des 204 décès suspects au nord et au sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, considéré comme l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola. Face à l'extension de cette maladie dans ces provinces, des mesures ont été prises. Qu'en est-il de l'évolution de cette épidémie à virus Ebola dans les zones affectées à Ituri? La réponse avec Martial Kizabiamungu qui s'entretient ici avec Benjamin Mudumbi.
Bonsoir Martial.
Bonsoir Benjamin Mudumbi.
Martial, dites-nous comment se présente à ce jour l'épidémie d'Ebola dans les zones affectées.
Depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola par le gouvernement le 16 mai dernier, la situation n'a cessé de s'aggraver sur les terrains. Au total, 7 zones de santé sont touchées, notamment Bunia, Mungwalu, Rwampara, Nyankunde, Bambou, Nizi et Kilo Village. Dans le cadre de la riposte contre cette maladie, des centres de traitement et d'isolement des personnes suspectes ou malades ont été construits par les autorités sanitaires et les partenaires internationaux. Benjamin, il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre un cas de décès dû à cette épidémie dans les zones affectées. Alors, il s'observe une méfiance de certains habitants vis-à-vis de cette maladie dont ils ne croient pas à l'existence même, ce qui justifie certains actes de vandalisme des centres de traitement et d'isolement enregistrés dans les hôpitaux généraux de de Rompara et Mungwalu, suivi de la fuite de malades qui, depuis lors, se sont dissimulés dans la communauté, ce qui constitue un grand danger pour la propagation de l'épidémie. Selon des acteurs sociaux, politiques et de la société civile, cette méfiance est due d'abord à l'ignorance de cette maladie par certaines populations, surtout dans les zones rurales, et aussi une faible sensibilisation des populations aux mesures barrières pour lutter contre la propagation de la maladie.
Cela étant, quelles sont les mesures prises par les autorités pour faire face à cette maladie qui a déjà causé la mort de plus d'une centaine de personnes?
Benjamin, notez que dans une circulaire datée du vendredi 22 mai dernier, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboyan-Kanchama, a ordonné la suspension immédiate du championnat de l'entente de football de l'Ituri, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, ainsi que l'interdiction des veillées mortuaires sur toute l'étendue des zones de santé où sévit l'épidémie d'Ebola. Par ailleurs, tout enterrement devra désormais se faire par des équipes de riposte dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur. Autre mesure prise par l'autorité provinciale, le transport des cadavres sur des motos, véhicules privés ou des transports en commun est strictement interdit. Une prérogative réservée aux seules ambulances des équipes de riposte. Enfin, Benjamin, les transferts partiels ou total d'un cadavre d'Ebola d'une entité à une autre est également interdit. Tout en insistant sur le respect des mesures barrières, le gouverneur Luboya en appelle à une prise de conscience collective face à la gravité de la situation. Il invite les autorités politico-administratives ainsi que les leaders religieux et communautaires à veiller à l'application de toutes ces décisions pour couper la chaîne de propagation du virus et sauver ainsi des vies humaines. Malheureusement, Benjamin, malgré la gravité de la situation, certaines de ces mesures sont partiellement respectées. On continue ainsi à voir des motos transporter 4 voire 5 passagers à travers les rues de Bounia, la capitale provinciale où les lieux des cultes n'ont pas désempli hier dimanche, avec des fidèles assis les uns à côté des autres, pour ne prendre que ces deux exemples-là.
Merci Martial et bonne soirée à Bounia.
Merci Benjamin Moudoumbi.
Merci à vous deux, Martial Kizabiamungu et Benjamin Moudoumbi. Docteur Jean Kasséa, vous êtes directeur général du Centre africain des contrôles et des préventions des maladies, Africa CDC. En écoutant cet entretien de nos collègues, on comprend que cette épidémie circule avec une vitesse qui inquiète. Comment vous expliquez cette évolution, docteur Jean Kasséa?
Il faut d'abord se dire que cette épidémie est la deuxième plus grave épidémie d'Ebola au monde. Donc, le nombre de cas et de décès, c'est plus que tout ce qu'on a connu dans toutes les épidémies Ebola, à part celle de l'Afrique de l'Ouest, en 2014. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette épidémie? Comme le ministre Kamba le disait, le 5 mai, il y a eu ces cas suspects. Mais malheureusement, sur place, à Bounia, ils n'avaient pas de matériel pour tester la souche Boudibougio. Ils ont testé la souche Zaïre. Ils ont dit que c'était négatif. C'était pas Ebola. Alors, la maladie a continué à se propager. En termes d'épidémie, lorsque vous avez raté une journée, deux journées, et il y a des contacts dans une zone comme Ituri, qui est une zone dense, qui est une zone minière, et qui est une zone avec l'insécurité. Je viens de l'Ituri, j'étais là il y a à peu près 4 jours. J'ai été voir les malades, aller à l'hôpital, les médecins. J'ai parlé avec les autorités. Je me suis rendu compte que la situation est sérieuse. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce qui fait que cette épidémie a continué de se propager en silence. Quand on l'a déclaré, on avait déjà plus de 256 cas et une soixantaine de décès.
Oui, docteur.
Alors que les autres épidémies, on les déclarait qu'on avait 10 cas ou 15 cas.
Voilà, vous dites que tout cela était lié au fait que lorsque le 5 mai, les premiers cas s'étaient déclarés, quand on a fait les examens. On n'avait pas assez de matériel, n'est-ce pas, pour déceler la souche Boudibougio. Et après 17 épidémies, vous ne pensez pas qu'il soit difficile à comprendre le fait que dans les zones de santé, qu'on ne puisse pas avoir des dispositifs, n'est-ce pas, ou des mécanismes pour déceler ce genre de souches, alors que ça fait 50 ans que nous faisons face à cette épidémie?
Bon, il faut d'abord se dire que nous avons plus connu l'épidémie avec la souche Zaïre. Ce n'est que la deuxième fois en RDC, nous avons l'épidémie avec la souche Boudibougio. La première avec la souche Boudibougio était à Isiro en 2012. Donc, les zones de santé, les provinces sont plus équipées avec l'épidémie qui a la souche la plus prépondérante, qui est la souche Zaïre. Voilà ce qui explique que, malgré toute l'expertise technique que la RDC a, malgré la volonté, on n'a pas pu avoir la souche Boudibougio puisqu'elle n'était pas régulière.
Voilà. Et plusieurs mesures ont été, n'est-ce pas, prises quand on a déclaré officiellement cette épidémie. À votre avis, comment vous évaluez la mise en application, n'est-ce pas, de ces mesures?
Bon, d'abord, il faut reconnaître que les autorités congolaises ont agi avec transparence. Et ça, je tiens à leur reconnaître ça et à les féliciter. Et je le dis toujours, on ne peut pas punir un pays africain quand il fait preuve de transparence. Vous avez vu la déclaration qu'Africa CDC a publiée par rapport à la décision d'un gouvernement occidental d'imposer les restrictions de voyage à la RDC en Ouganda et au Sud-Soudan. Donc, après avoir fait la déclaration, ils ont rapidement déployé les équipes sur terrain, la surveillance a été renforcée et les activités de recherche de contacts ont commencé. C'est vrai que la coordination s'est mise aussi en place à Kinshasa et j'ai vu à l'Ituri le général Luboya réunir tous les jours les équipes pour apprendre la situation en main. Ce qui a manqué, c'est nous n'avons pas de vaccins, nous n'avons pas de médicaments, ça c'est déjà connu. Donc, nous avons manqué tous les moyens nécessaires pour accompagner cette lutte en matière de communication, de changement de comportement, de protection des personnels de santé. Et puis, en matière d'enterrement digne. Et donc, c'est tout ça que nous sommes en train de corriger maintenant.
Voilà. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a appelé la communauté, en fait, vient d'appeler la communauté internationale à plus de solidarité. Quel est votre entendement par rapport à cet appel du directeur général de l'OMS, Dr Jean Kaseya?
Bon, il faut d'abord se dire qu'aujourd'hui, on a eu une réunion que j'ai organisée, à laquelle le président Ramaphosa a participé comme champion dans la lutte contre les épidémies. Nous avions une cinquantaine de ministres, dont le ministre Kamba, et on avait tous les autres partenaires. Cette réunion fait suite à la réunion que j'avais organisée en Ouganda le 23, donc il y a deux jours. À cette réunion de l'Ouganda, nous avions approuvé un plan conjoint de réponse à cette épidémie. Et c'est ce plan conjoint aujourd'hui qui a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires. Pour votre information, ces plans ont visé 381 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons sécurisé 498,8 millions de dollars d'intention de financement. Maintenant, mon combat est le combat que nous allons mener avec le gouvernement de la RDC, de l'Ouganda et d'autres pays africains, c'est de transformer ces intentions de financement en monnaie réelle. Et nous allons nous battre pour ça, puisque notre population a besoin de fonds. Je voudrais, comme nous avons le docteur Mouvoudi, remercier la grande contribution de la Banque mondiale, puisque j'ai eu un message de Ajay Banga, le président de la Banque mondiale, et j'ai parlé avec son équipe. Je pense que la RDC peut compter sur à peu près 160 millions de dollars qu'on peut refocaliser dans les fonds de financement qu'ils ont avec la Banque mondiale pour répondre à cette épidémie. Ça, c'est déjà un pas important et docteur Mouvoudi en parlera certainement.
Merci docteur Jacques Assea, nous vous gardons encore dans cette émission. Luc Malembe, acteur socio-politique basé à Bounia, à Ituri. Comment vous évaluez la mise en application, n'est-ce pas, des mesures prises contre l'épidémie à virus Ebola en RDC 10 jours après sa déclaration officielle?
Oui, merci monsieur Guimaté. Il faut commencer par condamner, comme je l'avais déjà fait sur d'autres médias, les cas de violence enregistrés dans certains coins de la province, notamment à Rwampara et à Mungwalu, des violences contre les structures sanitaires et même des structures qui servent dans la riposte contre Ebola. Mais cela dit, monsieur Guimaté, la situation n'est pas inquiétante comme j'ai suivi le docteur, la situation devient catastrophique. Nous sommes à plus de 200 morts. Déjà, nous avoisinons le 1000 cas suspects et jusque là, la situation ne fait que s'empirer. La situation qui a commencé dans 2 ou 3 zones de santé, vous avez suivi le reportage de votre collègue de Bounia qui vous parle de plus de 6 zones de santé déjà atteintes. Et donc la situation inquiète terriblement. Et ce qui nous surprend, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a l'épidémie d'Ebola, même en Ituri, en 2019, on en avait déjà. Ce qu'on voit actuellement, ça fait quand même réfléchir. 10 jours après, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Le docteur Katea était de passage à Bounia, le ministre de la Santé était de passage, mais sur le terrain, moi j'ai fait la ronde, je suis passé dans certains hôpitaux qui prennent en charge les malades atteints d'Ebola, écoutez, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de kit même de protection ni de traitement pour les corps soignants. C'est comme ça que vous voyez qu'on enregistre plusieurs morts parmi les médecins et les infirmiers. Même hier, il y a un médecin qui est mort, mais d'autres sont sous une situation inquiétante, difficile. Et donc, on se demande où sont les tonnes de matériel qu'on a dit qu'on avait fait venir déjà ici. Il y a des organisations internationales qui ont dit qu'ils avaient déployé des tonnes de matériel. C'est où? Où sont les millions qu'on nous chante ça et là? Parce que sur le terrain, est-ce que vous savez, M. Gu, qu'aujourd'hui, au parquet de grande instance de Bounia ici, il y a eu un cas de Ebola d'un jeune, un enfant qui a été interpellé. Et lorsqu'il est arrivé, il a commencé à saigner. On a appelé les équipes de riposte, ils vous disent qu'ils n'ont même pas de carburant. Vous imaginez, il a fallu que l'ambulance de la police arrive plusieurs fois pour le récupérer. On ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous savez, M. Gu, que on venait de m'appeler à Yedi, dans le fin fond du territoire de Mambasa, où la maladie est déjà arrivée à partir de Mungwalu ou de Djougou. On soigne les malades même dans des pharmacies parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Vous imaginez? Alors, donc, on est devant une situation difficile et la riposte ne suit pas. Il n'y a même pas, j'ai suivi votre collègue Martial, il faut corriger, il n'y a pas un centre de traitement d'Ebola construit jusque-là. Il n'y a rien parce que j'ai été à l'hôpital de Sémé, j'ai été à Rwampara. Aucun centre de traitement Ebola jusque-là qui est construit. Les malades arrivent, il n'y a pas moyen de les prendre en charge et c'est ce qui fait que on est en train d'aller vers une rupture de confiance entre la population et les personnels soignants. Parce que vous amenez votre malade, vous restez, on ne le prend pas en charge,
jusqu'à ce qu'il meure.
Luc Malembe.
Alors, maintenant.
Justement, justement, les pesanteurs, n'est-ce pas, auxquels font face les équipes de riposte, c'est entre autres ces manques d'appropriation et de la menace par la population locale. Vous qui êtes sur terrain, qu'est-ce qui doit être fait pour amener, n'est-ce pas, les communautés à prendre conscience de la menace et à pouvoir s'impliquer dans la riposte?
Il faut dire ici que les communautés ne sont pas assez sensibilisées et ne sont pas assez informées. L'équipe, qui est le personnel ou même les animateurs de la division de la santé ici, à mon avis, ils sont défaillants. Parce que si on en est d'ailleurs à ce niveau ici, c'est parce qu'ils n'ont pas été efficaces dès le début, depuis que les rumeurs avaient commencé à Moualou. Parce que c'est de là, et c'est là l'épicentre de la maladie. On nous a fait croire des rumeurs sur les réseaux sociaux partout que c'était un cercueil mystique qui tuait les gens. Les personnels de santé ou la division de la santé localement ici n'a pas été proactive et ça ne nous a pas aidé. Donc je crois même qu'il faut envisager des sanctions à ce niveau ou même des remplacements. Même le gouverneur de province venait d'en parler. Il y a un problème de personnel qualifié, on n'en a pas.
Voilà, donc, un problème de personnel qualifié, ça c'est un des obstacles. Et les autres obstacles que vous avez observés sur le terrain et qui généraient, n'est-ce pas, la riposte, c'est quoi ces obstacles-là, à part ces problèmes des médecins qualifiés?
Donc, je vais parler d'un manque de sensibilisation de la population qui n'est pas... est-ce que vous savez, M. Guy, qu'il n'y a presque pas d'équipe de riposte? On n'en a pas comme on a vu en 2019. La ville, comme vous la voyez, la ville de Bounin, même pas un point. J'étais à Rwampara, l'autre endroit qu'on peut considérer comme épicentre. Même pas un point de lavage de main entre Bounin et Rwampara. Entre Bounin et Moualou, les gens viennent, ils manipulent les cadavres comme ils veulent, ils arrivent dans la ville, même pas un point de lavage de main. Donc il y a un problème. La riposte tarde à se mettre en place, c'est ce qu'il faut dire. Et j'invite les uns et les autres à comprendre que nous sommes en train d'aller vers une catastrophe. La maladie qui a commencé à Moualou, dans le territoire de Djougou, est en train de gagner les autres territoires. La ville est gagnée, le territoire de Mahagi devrait être gagné déjà. Donc la maladie est en train de se propager pendant que la riposte, on est encore en train de nous parler de mobiliser de l'argent. Mais quand est-ce que ça va arriver? Alors, donc il y a ça, il y a la faible mobilisation des bailleurs, même qui sont localement ici. Les services étatiques me disent qu'il n'y a pas, ils ne parlent pas le même langage avec les bailleurs de fonds. Donc, on ne sent pas, en tout cas jusque-là, une mobilisation des recettes, de fonds pour appuyer les équipes qui sont là. Il faut aussi dire qu'il y a un problème avec les écoles. Donc, le gouverneur de province a annoncé une certaine mesure, une certaine batterie de mesures, mais beaucoup de parents estiment qu'il faut aller jusqu'à suspendre d'abord les enseignements dans les écoles primaires, les maternelles et tout. Et ça, il faut s'adresser au ministère de l'EPST. En tout cas, je pense que la situation n'est pas bonne. La chaîne de contamination n'est ni maîtrisée, ni stoppée. Et donc, continuer à laisser les petits-enfants aller comme ça à l'école sans être sûr que des mesures efficaces de barrières vont empêcher que les enfants se contaminent, il faut aller jusqu'à à la suspension des écoles. Mais surtout, je finis par là, en suspendant le vol, même domestique en Ituri, parce que même le vol entre Arou et Bounia, on a suspendu, entre Mahagi et Bounia, on a suspendu. Mais imaginez qu'il y a un cas à évacuer à Mahagi. Il n'y a pas déjà de route, et puis vous dites qu'il n'y a même pas de vol. Je crois qu'il ne faut surtout pas suspendre le vol sur Bounia. Comment on va faire? En suspendant le vol, on ne rend pas... On va rendre notre situation encore plus compliquée. N'oubliez pas que nous sommes déjà dans une situation difficile avec l'insécurité à Ituri.
Merci Luc Malembe, on vous regarde encore dans cette émission. Docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique, expert principal en santé, chef de projet à la Banque mondiale. Vous avez participé activement à la gestion des neuf épidémies de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la COVID-19 en RDC dans l'équipe des professeurs Jean-Jacques Mouyembe. Quelle est votre évaluation de la mise en application des mesures pour freiner, n'est-ce pas, la propagation de cette maladie?
Merci beaucoup, cher Dimaté. Je crois que, quand c'est que notre collègue l'a dit tout à l'heure, nous devons nous mettre à l'évidence que la situation est très complexe sur le terrain. En tant que médecin de santé publique, l'évaluation sur les éléments actuels. Qu'est-ce que les gens rapportent? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Alors, sur ça, je voudrais vraiment revenir sur trois petits points très rapidement. Tout en saluant les efforts qui sont menés au niveau global, au niveau national et même au niveau local, nous ne devons pas se cacher la face que nous sommes devant une situation qui montre justement qu'il y a des piliers que nous devons renforcer dans notre système de santé de manière globale. Le premier élément, c'est d'abord se rendre compte qu'en fait, nous n'avons pas, encore une fois de plus, la population avec nous dans cette riposte. Cette situation que nous avons vécue en 2018, lorsqu'on avait la dixième épidémie de la maladie du virus Ebola, est en train de revenir, alors que c'était la grande leçon qu'on avait tirée, qui était celle de se dire, lorsque vous construisez une riposte, soyez rassurés que vous avez les populations avec vous. Ce que vous voyez comme violence, ce que vous voyez comme rupture de la confiance entre les prestataires et les communautés, dénote tout simplement d'un manque total d'appropriation de la riposte par les bénéficiaires. Et pour moi, ça, c'est devient crucial. Monsieur Dimaté, je vous rappelle qu'en 2008, l'OMS avait insisté pour qu'on développe au niveau des pays ce qu'on appelait les guides de surveillance à base communautaire. En insistant sur le fait que chaque maladie devrait avoir une capacité, devrait avoir une possibilité d'être détectée déjà par certains signes annonciateurs par les communautés. Ça veut dire qu'une communauté peut suspecter, sur la base de certains signes, une maladie, prendre déjà à ce niveau-là des mesures d'idoine. Vous donne un exemple. Quand vous avez une maladie à virus Ebola, on sait qu'il y a la fièvre, il y a la diarrhée, l'évolution, il y a l'hémorragie. Dans certains coins du pays, une fois que les populations voient un tel cas, il y a déjà des mesures qui commencent à se construire, les populations se disent « attention, ça pourrait être la maladie à virus Ebola » et donc il faut prendre contact avec la structure de santé la plus proche. Il ne faut pas toucher cette personne et se provoquer la maladie. Ça veut dire même si on n'a pas encore posé de diagnostic au laboratoire, mais déjà le comportement de la population peut réduire drastiquement la propagation du virus.
Alors donc, c'est le travail de sensibilisation de la population pour qu'elle puisse s'impliquer, n'est-ce pas, dans la riposte, doit se faire de façon permanente, même quand il n'y a pas de maladie.
Exactement, parce que ça ne concerne pas seulement la maladie du virus Ebola, les définitions communautaires des maladies existent pour l'ensemble des pathologies que nous avons. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, nous devons nous mettre à l'évidence qu'on n'investit pas beaucoup dans la communication pour le changement des comportements, qu'on n'a pas beaucoup investi dans la surveillance à base communautaire, et je crois que c'est le moment d'accélérer ce chantier. Deuxièmement, M. Dimaté, j'insiste sur le fait que nous sommes dans une vision des soins de santé primaire. Et à ce titre-là, n'oublions jamais que la zone de santé reste le socle de la mise en œuvre de cette stratégie de soins de santé primaire. Et dans le cas d'espèce, quand vous regardez ce qui se passe, ce qu'on est en train de décrire, vous vous rendez compte à quel point nous n'avons pas un leadership très fort au niveau opérationnel. C'est très important parce que dans le cas le plus courant, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que nous devons faire, et c'est ce qu'on a appris avec les autres épidémies, c'est que mettons déjà au niveau des zones de santé des stocks de médicaments prépositionnés. Aujourd'hui, on a une épidémie dans une zone de santé, on a une épidémie dans une province. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on commence à mobiliser les avions, qu'on commence à mobiliser les médicaments qui partent généralement de Kinshasa. Alors que, en situation normale, si nous avons des stocks d'urgence prépositionnés dans ces zones de santé, dans ces provinces, si nous avons des fonds d'urgence prépositionnés, et nous avons la chance de permettre aux équipes locales de prendre directement les premières mesures avant d'être renforcées. Et ce que nous voyons aujourd'hui montre justement que le niveau opérationnel n'a pas construit justement des capacités de réaction rapide avant le renforcement par le niveau provincial, le niveau national et même le niveau global. Et troisièmement, je pense que c'est important de s'imaginer à quel point nous devons investir dans le renforcement de notre système de santé. C'est une responsabilité collective, hein. elle concerne aussi bien le gouvernement que nous, les partenaires, et je salue justement les efforts qui ont été menés par le CDC Africa, que nous avons relayé aussi, pour voir dans quelle mesure construire justement un financement. Mais ce financement ne doit pas être un financement de réaction, mais un financement qui s'inscrit dans le renforcement du système de santé, pour que si demain on a la même situation à la Tchopo, qu'on ne soit pas en train de réagir, mais qu'on anticipe sur ce qui peut arriver. Si demain on a la même situation au Bas-Ouélé ou autre Ouélé, qu'on ne soit pas en train de réagir, mais qu'on anticipe, parce que les structures locales seront à même de pouvoir prendre en charge la situation. C'est ce qu'on venait de dire, et je crois que c'est l'occasion de se remettre en question, de se dire, est-ce que nous avons réellement un modèle basé sur le renforcement du niveau opérationnel? Et les efforts doivent aller dans ce sens-là. Et tout ce que vous venez d'entendre, évidemment, corrobore ce que je viens de vous dire.
Docteur Mouvoudi, vous avez participé, n'est-ce pas, à NEF Épidémie. Est-ce que actuellement vous êtes impliqué aussi dans ce qui s'est fait sur le terrain à Nitori, notamment?
Évidemment. Donc, je voudrais ici déjà vous rassurer que nous avons déployé, nous avons financé une première équipe de l'INSP, donc l'Institut National de Santé Publique, avec le CUSP. Donc, 19 personnes ont été financées par le groupe de la Banque Mondiale pour aller directement sur le terrain. Nous avons d'autres équipes que nous avons soutenues qui sont sur le terrain, d'ailleurs, qui nous ramènent suffisamment d'informations pour qu'on puisse calibrer notre intervention. Et moi-même, je suis couramment en contact avec les équipes ici au niveau national, mais aussi au niveau international et même au niveau local, pour essayer d'apporter des interventions en rapport avec les besoins qui sont exprimés. Mais je dois te dire, Guy Maté, que, en fait, comme mon prédécesseur venait de dire, nous devons nous mettre en concert et essayer de nous coordonner pour non pas seulement dire qu'on va intervenir, mais surtout être très attentif à ce que la population, à ce que les prestataires de terrain sont en train de remonter comme gap ou comme besoin ou comme difficulté. Et ça, ça va nous permettre d'adapter, n'est-ce pas, nos interventions au contexte actuel, qui est un contexte tout à fait particulier, parce que vous vous rendez compte qu'au côté, n'est-ce pas, de ce que nous faisons en santé, nous avons besoin aussi d'impliquer les autres secteurs. Je rappelle, Guy Maté, que lutter contre la maladie virus Ebola n'est pas l'apanage seulement du secteur de la santé. C'est l'apanage du ministère de la communication, c'est l'apanage du ministère de l'éducation. On a parlé de la sécurité, le transport. Nous ne devons pas oublier la dimension multisectorielle de cette riposte, parce que si nous restons santé-santé, je suis convaincu qu'on partira pour très longtemps et nous allons perdre beaucoup de vies humaines.
Voilà, nous allons maintenant écouter les auditeurs qui sont en train d'appeler, nombreux pour donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Docteur Michel Mouvoudi, vous gardez la parole, hein, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Maître Moïse Aliéguer Agnakoulinde, avocat au barreau de l'Ituri depuis Kinshasa. 10 jours après le début de cette crise sanitaire, le gouvernement de la République a agi avec une vélocité exemplaire en suspendant les vols vers Bounia et en interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. Les autorités ont dressé un cordon sanitaire indispensable. Limiter la propagation du virus Ebola, c'est avant tout limiter la mobilité humaine. C'est donc une décision des salis publics. Pourtant, l'application stricte de ces mesures se heurte à une réalité géographique et sécuritaire complexe. Comment imposer une distanciation sociale là où plus d'un million de non-compatriotes s'attassent dans 61 sites de déplacés? Dans ces espaces de survie, ici la crise sanitaire devient malgré nous le premier vecteur de propagation de ces virus. Chaque déplacement des populations fouillées des combats est une brèche potentielle pour le virus. On ne peut demander à un médecin de soigner avec stéthoscope dans une main et la peur des balles dans le cœur.
Docteur Michel Mouvoudi?
Non, je pense que, Guy Maté, l'auditeur a totalement raison, mais je vais vous faire quand même réfléchir dans une approche très diagonale. Lorsque nous avons eu la pandémie à la COVID-19, la mesure phare était le confinement. On a confiné des pays, on a confiné des continents, mais très rapidement, on s'était rendu compte que le confinement avait eu un impact économique. Parce que pour acheminer des médicaments, pour produire, pour continuer la croissance, certaines activités étaient freinées et donc on a commencé à constater une baisse de production dans la majorité des pays. Parce qu'il fallait confiner. Moi, je pense que l'idée de suspendre le vol n'est pas mauvaise, mais il faut l'évaluer entre l'impact sur la propagation de la maladie, mais aussi n'oubliez pas que on aurait aussi un impact sur l'économie de la région. Tout à l'heure, mon prédécesseur a parlé du besoin, par exemple, de transférer un certain nombre de malades qu'on pourrait avoir quelque part. Il faut les amener quelque part pour les soigner. Ces gens ont aussi droit aux soins. Et donc, moi, tout en saluant la mesure, mais je pense qu'il faudra l'évaluer et s'assurer justement que cette mesure n'est pas drastique, qu'elle n'est pas une mesure trop verticale, parce que justement, les vols peuvent aussi nous aider à résoudre certains problèmes de santé publique. J'insiste encore une fois de plus ici, je me suis dit que lorsque nous sommes en train de mener une riposte, le secteur du transport fait partie des acteurs qui doivent nous aider. Transporter des échantillons, transporter des experts qui vont aller là-bas. Et donc c'est une mesure qu'il faut évaluer avec beaucoup de parcimonie et assurer justement que nous n'avons pas des impacts collatéraux qui risquent encore une fois de plus d'aggraver, n'est-ce pas, la souffrance de notre population qui déjà du reste est dans une situation d'impact. Très prononcée.
Merci docteur Jean Kasséa. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Maître Olimongo Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu, comment se fait-il qu'à moins de 2 semaines de l'annonce officielle de cette 17e épidémie, 900 cas suspects s'enregistrent rapidement, c'est-à-dire qu'il y a légèreté et non prise en compte et sérieuse de cette maladie entre autorités gouvernementales, sanitaires et population. La vie humaine n'a pas de prix et le droit à la santé n'est pas négociable. J'encourage cette suspension provisoire des activités et les vols d'avion. Mais aussi, il ne faut pas se limiter aux mesures préventives car un seul ne constitue pas des solutions si efficaces à la maladie, ni encore des moyens sûrs pour la guérison ou anéantissement définitif de la maladie Ebola. L'État doit tout faire pour appuyer les recherches pour trouver rapidement les vaccins et les médicaments de ce virus. Arrivé à la 17e épidémie, ça montre une légèreté de la part du gouvernement congolais. Sinon, une solution serait déjà trouvée pour les vaccins. La maladie avait fait seulement semblant de dormir et les autorités congolaises et sanitaires sont tombées dans la distraction.
Docteur Jean Kasséa.
Oui, il y a plusieurs aspects dans cette réaction et je comprends ça. Je veux d'abord dire à nos auditeurs, avant la déclaration d'une épidémie, les activités de surveillance ne se font pas de façon intensive. Lorsqu'on déclare une épidémie, on déclenche les activités de surveillance. Et ces activités de surveillance permettent de détecter encore beaucoup plus de cas. Ce qui se passe avec cette épidémie, comme je le disais, c'est la deuxième plus grosse épidémie au monde. Alors, cette épidémie, on l'a déclarée déjà avec plus de 246 cas. Et donc, quand on commence maintenant à faire la surveillance, à retrouver les cas contacts, c'est comme ça qu'on va voir une augmentation du nombre de cas. Et je vais vous dire qu'on va continuer à avoir une augmentation du nombre de cas pendant encore quelques jours, puisqu'on intensifie ces activités. Maintenant, concernant le vaccin, j'ai été très clair là-dessus. Je pense que les Congolais ont le temps de me suivre sur toutes les chaînes, à la fois étrangères et nationales. J'ai toujours dit, si cette maladie avait frappé les États-Unis, avait frappé l'Europe, le vaccin et les médicaments seraient déjà disponibles.
C'est le cas de la souche Zaïre, n'est-ce pas, qui avait affecté les pays occidentaux.
Voilà.
Et tout de suite après, le vaccin avait été mis au point.
Mais comme maintenant, ça n'a été qu'en Afrique, c'est cela l'inéquité, c'est cela les traitements que je n'accepte pas, et je le dis à tous les Occidentaux, ils connaissent mon point de vue. Actuellement, Africa CDC, nous travaillons ensemble avec l'OMS et certaines autres organisations pour accélérer la fabrication des vaccins. Je suis en train de veiller à ce que, d'ici le mois de décembre, il y ait un vaccin avancé pour cette maladie. Maintenant, les derniers points concernant les vols. Nous sommes très clairs en Afrique à faire ces choses-là. Lorsqu'il y a une épidémie, nous ne pouvons pas suspendre les vols. La suspension des vols peut sembler être une mesure logique, mais l'expérience scientifique et les leçons tirées des précédentes crises montrent que les restrictions généralisées des voyages sont souvent peu efficaces et peuvent même aggraver la situation.
Alors, justement, ce que nous recommandons... Docteur Jean Kasséa, parce que l'un des défis, c'est d'identifier les cas contacts. Que les gens ne puissent pas avoir la possibilité de se déplacer pour ne pas propager, n'est-ce pas, la maladie. Alors, par rapport à ça, s'il ne faut pas suspendre les vols, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à freiner, n'est-ce pas, la propagation ou la circulation de la maladie?
Vous savez, la plus grande stratégie, c'est tester, 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 isoler les cas positifs ou les cas que l'on pense être encore des cas contacts pour voir comment ils vont évoluer, pour le retester. Et dès que vous faites ça, vous ajoutez à cela la composante communication. La composante communication permettra à ce que les populations changent les comportements. Nous devons utiliser les leaders d'opinion locaux. On doit leur parler dans la langue locale. Ça, c'est des mesures que nous prenons. Écoutez, j'ai été très clair par rapport aux États-Unis. Je leur ai dit, vous ne devez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Mais qu'est-ce que je connais du cas de la RDC? Je parle avec toutes les autorités en RDC. Et j'ai bien compris que c'était une mesure très provisoire de deux ou trois jours, puisque moi j'ai été à Ituri. L'aéroport de Bunia était un aéroport en construction. Il n'y avait pas de mesures de sécurité prises. J'ai fait aussi la recommandation au ministre et aux différentes autorités pour qu'on puisse travailler sur ça, et le ministre lui-même était là. Et donc, cette suspension de deux ou trois jours a permis de mettre en place les mécanismes pour ne pas amener l'épidémie de Bunia à Kinshasa ou ailleurs à travers l'aéroport. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir, et j'ai bien compris que cette mesure, elle est presque levée.
Elle est presque levée.
Je pense que je parle sous l'autorité de ce que les autorités ont annoncé hier à la télé. Le ministre de la Santé est passé. Et je pense que aujourd'hui il y a eu un vol qui a amené l'équipe de l'OMS là-bas. Donc, et je sais de bonnes sources que la mesure doit être définitivement levée, si pas aujourd'hui, demain.
Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement des vols humanitaires ou sanitaires?
Non, non, non. J'ai l'information que cette mesure sera levée.
Voilà, donc on attend l'annonce officielle. Luc Malembe, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Bamako, la capitale du Mali.
Ernest Lukumwenakala depuis Bamako au Mali. Ces décisions sont nécessaires, mais l'expérience des crises passées nous rappelle qu'il faut aller plus loin. Anticiper, renforcer la surveillance communautaire, appliquer rigoureusement la prévention et les contrôles des infections et garantir la continuité des services essentiels, notamment les examens des élèves finalistes dans les zones touchées. La vraie efficacité se mesure à la capacité de protéger les vies tout en maintenant la stabilité sociale et éducative. Quelles dispositions concrètes le ministre de la Santé peut-il mettre en place pour tirer les leçons des épidémies précédentes, anticiper la propagation et assurer la tenue sécurisée des examens des élèves finalistes dans les zones affectées?
Luc Malembe.
Oui, en fait, les compatriotes ont fait des propositions que nous tous on a fait déjà. Les grands défis qu'on a ici, c'est maîtriser la chaîne de commandement et de contamination plutôt et l'arrêter. Ce n'est pas encore fait. La chaîne n'est pas encore maîtrisée et n'est même pas arrêtée. Et tant qu'elle n'est pas arrêtée, on va continuer à déplorer des cas. Donc, il y a ça. Il y a aussi, je crois, le docteur Mouvoudi qui a rappelé qu'on doit investir dans la sensibilisation et la communication stratégique des changements de comportement. Je pense même qu'il faut qu'on aille loin pour réglementer la consommation de la viande de brousse. Parce que vous savez que tout ça ici vient de là. Donc, quelqu'un, dans un village quelque part au pays, il peut manger, je sais pas, une chauve-souris ou quoi, et ça nous amène à ce genre de situation où on met en danger même la santé mondiale. Donc il va falloir réglementer en tout cas la consommation de la viande de brousse, mais aussi Il faut, comme je disais, investir dans la communication. Il n'y en a pas. Le docteur Kasséa parlait des leaders locaux qui doivent être renforcés. Il faut mettre des mégaphones qui passent dans des villages partout, à Moualou, et à Bouna ici et tout, dans les fins fonds des quartiers, et non se limiter sur les réseaux sociaux. Utiliser les personnes qu'on écoute localement, dans les langues locales, et ça, ce n'est pas fait parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi, je suis ici, je suis au Pourré, au Moulin, avec mes petits moyens maigres, et alors que on devait avoir des appuis financiers dans ce temps, il n'y en a pas. Il faut, donc, qu'il s'est assez. J'ai entendu le docteur Kasséa dire que voilà, on est en train de mobiliser, c'est maintenant qu'il faut le faire, et envoyer ce qu'on a déjà, parce qu'on se rend compte que, visiblement, notre système de santé dépend totalement de l'extérieur. Donc, après tout ce qu'on a eu comme épidémie par le passé, franchement, on sent comme si notre système de santé est resté dépendant totalement. On n'a pas mis en place un fonds stratégique qui reste là. Et on sait déjà que notre pays, l'épidémie d'Ebola est résurgente. Et on devait déjà avoir un fonds où on peut recourir en urgence lorsque ce genre de situation se présente. Il n'y en a presque pas. Donc, c'est un système de santé qui dépend totalement de l'étranger, et ça doit s'arrêter. Donc, il y a ça, comme les compatriotes disaient, les écoles, nous on propose plutôt qu'on ferme la maternelle et le primaire, mais évidemment pour le secondaire, on peut juste faire en sorte qu'on puisse prendre toutes les mesures pour que les élèves finalistes puissent terminer le secondaire. Mais en tout cas, pour le primaire et la maternelle, tous les parents qui m'ont appelé à Bouna sont en train de demander qu'on suspende d'abord, parce qu'à cette allure, déjà on a deux élèves qui sont morts de ça à l'IDAP ISP Bouna ici, et donc la maladie est déjà en milieu scolaire, et c'est maintenant qu'il faut agir. J'interpelle en tout cas le ministre de l'EPSP à agir, et agir rapidement. Et donc je vais lancer un petit message en Swahili pour ceux qui m'écoutent, c'est que comme le docteur disait,
on va le faire à la fin de l'émission. Ça sera votre conclusion, Luc Malembe. Vous allez le faire en Swahili. Docteur Michel Mouvoudi, la Commission européenne a annoncé l'octroi de 15 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire afin de soutenir, n'est-ce pas, la riposte à l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC et en Ouganda. L'OMS a aussi annoncé une aide d'environ 3,9 millions de dollars. Et vous avez suivi le docteur Jean Kasséa qui a évoqué un certain nombre de chiffres ici, hein, 380 millions, 488 millions, 160 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut un jour, n'est-ce pas, concrétiser ou après ces annonces-là, on peut un jour les concrétiser, Anat?
Bon, je pense que c'est référent aux autres épidémies, et comme d'ailleurs le directeur général de Dr. Kasséa venait de dire, ainsi que mon prédécesseur, M. Luc. Si vous regardez bien, vous faites vraiment un background de tout ce qu'on a connu comme épidémie dans ce pays. Ben, on a toujours bénéficié de l'aide extérieure, on a toujours eu la solidarité internationale comme étant outil, hein, stratégique opérationnel pour pouvoir mettre fin à la propagation des phénomènes morbides. Maintenant, M. Guy, je crois que de plus en plus, comme on venait de le dire, nous sommes en 2026, regardez le paysage mondial, comment est en train de se comporter. Il est temps qu'on commence à comprendre qu'en fait, nous devons financer, nous devons soutenir désormais certains secteurs avec principalement nos ressources endogènes. C'est là où justement je suis en train d'encourager des agendas de développement à long terme. Notamment, par exemple, comment pouvons-nous davantage accélérer cet agenda de fabrication de vaccins en Afrique, comment pouvons-nous accélérer cet agenda de mise en place des infrastructures de santé publique de qualité, comment pouvons-nous accélérer la mise en place des réseaux de laboratoires, parce que finalement, ce genre de phénomène, nous allons encore le retrouver devant. Et entre le moment où le phénomène commence et la réactivité nationale et internationale, nous perdons suffisamment de vie humaine. Donc la leçon à tirer, c'est que d'accord, les bailleurs de fonds vont se mobiliser, la Banque mondiale, l'OMS, l'Union européenne, mais nous devons commencer à être résilients et à construire un financement domestique capable d'être en même d'apporter les premiers moyens de bord. Et ce moyen-là, j'insiste, M. Guy, avec l'expérience que j'ai dans les systèmes de santé, c'est assurer que ces moyens sont décentralisés. Ça veut dire, lorsqu'on est à Bounia, ces moyens sont à Bounia pour qu'une fois qu'on a un phénomène étrange, que les acteurs opérationnels soient capables de réagir.
Merci,
et ça, docteur. Je pense que c'est un agenda sur lequel nous devons travailler de commun accord. Et j'encourage toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là.
Merci.
Deuxième élément, je voudrais terminer par la question de la gouvernance de tout ce que nous avons comme financement dans le secteur de la santé. Plusieurs rapports de l'OMS, du CDC, de la Banque mondiale révèlent justement qu'il ne suffit pas de mobiliser des ressources, mais il faut bien les gérer. Aujourd'hui, les gaps qu'on a en santé n'est pas seulement un gap en termes de hauteur, mais c'est aussi un gap en termes de gestion. Plusieurs audits, plusieurs évaluations montrent que nous gaspillons beaucoup, parfois même quand c'est dans des situations d'urgence, et donc nous devons mettre en place des mécanismes de gouvernance qui permettent de bien utiliser les ressources, et c'est là où justement l'agenda de la digitalisation est un agenda important, y compris lorsque nous sommes en situation d'épidémie.
Docteur Michel Mouhoudi, nous sommes à la fin de l'émission, hein. C'est quoi votre mot de la fin?
Oui, nous devons mettre les populations au cœur de cette riposte, et nous arriverons à vaincre, n'est-ce pas, la propagation de ce virus avec justement le concours des uns des autres. Et la population doit être au cœur de tout ce que nous faisons. La population doit être un partenaire important au centre de cette riposte.
Merci, docteur Jean Kaseya. Vous allez aussi conclure, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Et qu'est-ce qui doit être corrigé actuellement par rapport au dispositif qui est mis en place immédiatement, en attendant que toutes les annonces qui ont été faites, n'est-ce pas, par les partenaires sérieux ne puissent se concrétiser en acte? Qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat pour sauver les vies sur le terrain?
Bon, d'abord, il faut se dire que depuis que je suis en Afrique à CDC, j'ai lancé cet agenda de souveraineté sanitaire. La santé d'une population est d'abord la responsabilité de son gouvernement. Ce n'est pas la responsabilité des partenaires. Voilà pourquoi, lorsque l'épidémie a commencé, j'ai d'abord demandé au gouvernement congolais de me dire combien il mettait. Et on a eu les chiffres à 20 millions. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à mobiliser la communauté internationale. À notre population, je vais leur dire, j'ai été à Ituri, j'ai vu la situation, je sais qu'elle est sérieuse, mais j'ai vécu aussi beaucoup d'autres épidémies. Nous allons contenir cela avec leur concours. Notre rôle aujourd'hui, c'est de trouver suffisamment de ressources pour appuyer le gouvernement afin que la réponse adéquate soit apportée, que ce soit au niveau de la protection du personnel de santé, de la communication de la population ou d'autres mesures barrières qui doivent être mises en place. Nous allons aussi nous charger à ce que les vaccins et les médicaments deviennent disponibles assez rapidement avec les recherches que nous faisons.
Merci. Merci Luc Malembe. Votre mot de la fin en Swahili.
Mimi napenda kuambia wa ndugu yangu ya Ituri, wa ndugu yangu ya Mungwalu, wa ndugu yangu ya Kwampara, ya Bunia, ya kama epidemia ya Ebola iko. Na kama mtu anakaa na wasemea sema epidemia ya Ebola ni bongo, ni ba munganga biko banaua batu, mtu wa vile msimtikie. Kusema tuweze hii epidemia, inaomba kwanza tuitike kama iko na inomba tufanye yote tusipate, na kwa kusema tusipate inomba kunawa mikono, inomba kusikogusa maiti ya mtu alikufa na malali ya Ebola, na inaomba kukufata makanuni yote ya waganga wako wanatuambia. Kama unaona mtu anakuwa akikuwa na fievre na homa, anakuwa anatosha damu kwa kumapua au kukinywa, tumupeleke mbio mbio kwa hospitali. Haiko sie peke kwanza kuleta munganga na madawa yetu kama ya wapi.
Asante sana Luc Malembe. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Docteur Jean Kaseya, docteur Michel Mouhoudi et monsieur Luc Malembe. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé et à Pierre Giassinois et Jean-Claude Nsiala qui était à la technique. Et Chembe et Loku qui assure, n'est-ce pas, qui a assuré les lives de cette émission. À la présentation, Guy Maté, merci encore et bonne suite de programme sur Radio Capi.